Jean-Hervé Jézéquel, bonjour.
Bonjour.
9 mois après, est-ce qu'on y voit plus clair sur les raisons du putsch ?
Ouais, il y a toujours un parfum d'incertitude hein, sur les causes précises de ce putsch hein, et du renversement du président Bazoum. Mais on peut dire aujourd'hui qu'une partie des officiers supérieurs désapprouvaient d'une part la place croissante prise par les acteurs étrangers occidentaux, France, mais aussi voilà, d'autres pays, hein, les États-Unis, les pays européens. Et d'autre part, ils se sentaient aussi, une partie d'entre eux en tout cas, se sentaient aussi marginalisés par les décisions du président Bazoum dans le dossier sécuritaire. Voilà, ils sont passés à l'action dans un contexte régional qui lui aussi était favorable au coup après des putschs réussis en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Ce qui est notable au Niger, c'est que contrairement au Mali et dans une moindre mesure au Burkina, c'est qu'il n'y avait pas de mouvement populaire qui a précédé le coup. Il n'y avait pas une exaspération visible vis-à-vis du pouvoir. Le président Bazoum venait d'être élu 2 ans avant. Par contre, il n'y a pas eu de mouvement de soutien en sa faveur pour le défendre. Et très rapidement, l'agenda souverainiste des putschistes a séduit la population. Probablement qu'il était perçu comme plus porteur de renouveau que le pouvoir civil, quelles que soient ses qualités d'alors.
Est-ce que l'ancien président Mahamadou Issoufou a joué un rôle dans ce putsch ?
Alors, là aussi, hein, il y a eu beaucoup de rumeurs hein, sur le rôle de l'ancien président Issoufou du fait de sa proximité, notamment avec le général Tchani, hein, qui était le chef de sa garde. Je n'ai vu aucun élément probant sur son implication. Et pour tout dire, je trouvais curieux qu'un président qui s'est si longtemps méfié de ses propres forces de sécurité leur confie aujourd'hui son avenir au risque de ruiner un petit peu son héritage. Et notamment le parti politique qu'il a construit sur plus de 4 décennies et qui aujourd'hui complètement déchiré. Par contre, ce qui est troublant, c'est la proximité qu'il affiche aujourd'hui avec une partie du CNSP. Alors, le président Issoufou a voulu jouer les médiateurs dans les jours qui ont suivi le coup d'État. Il semble aujourd'hui se ranger à la raison du plus fort. Et cela n'aide peut-être pas à construire une transition qui assurerait un meilleur équilibre entre acteurs civils et militaires. Aujourd'hui, l'essentiel du pouvoir d'État, au niveau central comme au niveau local, est aux mains des hommes en uniforme. Et dans un tel système, un démocrate n'a pas beaucoup d'avenir.
Le Niger doit produire 90 000 barils jour de pétrole à partir de cette année 2024. Est-ce que cette perspective de boom pétrolier a joué un rôle dans le putsch ?
Ce n'est pas impossible que ça joue un rôle, mais je n'ai pas d'éléments probants à partager. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'État du Niger est étranglé financièrement et que les ressources pétrolières qui commencent à être exploitées servent surtout à tenter de desserrer l'étau dans lequel se trouve l'État du Niger financièrement à travers des avances par la compagnie chinoise qui exploite ce pétrole-là. Donc si c'était le plan pour l'instant, et en tout cas au départ, il prend un mauvais chemin.
Pourquoi les pays de la sous-région, hein, de la CDAO, ont renoncé à leur plan militaire contre la junte ?
Bon, elles n'en avaient pas les moyens militaires d'une part, et puis d'autre part, les opinions ouest-africaines n'y étaient pas favorables. Mais je crois que les pays de la CDAO ont très vite compris qu'une telle intervention était non seulement hasardeuse, mais aurait pu aussi se retourner contre ses initiateurs. Yes. Au fond, je pense que la CDAO a haussé le ton trop brutalement, trop vite. Elle a un peu confondu vitesse et précipitation. Une fois le coup consommé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce sur quoi il aurait fallu se concentrer à ce moment-là, mais c'est sûr que c'est facile de le dire aujourd'hui, c'est plutôt sur la forme de la transition. Négocier peut-être un meilleur équilibre entre civils et militaires, assurer une meilleure participation des forces politiques et de la société civile. Au Mali, lors de la première transition, en août-septembre 2020, la CDAO avait plutôt su bien négocier. Là, en 2023, elle s'est avérée beaucoup moins efficace.
Voulez-vous dire qu'il n'y a pratiquement plus d'espace de liberté aujourd'hui à Niamey ?
Non, là-dessus, je dirais pas tout à fait ça. Je crois que la situation autour des libertés publiques se tend, indubitablement, au Niger, mais elle n'est pas encore aussi détériorée que dans les autres pays de l'AES, hein, de l'Alliance des États du Sahel. Alors certes, on n'est pas très optimiste sur les mois à venir. Si les autorités font face à des difficultés croissantes dans le domaine sécuritaire ou socio-économique, il n'y a pas de raison de penser qu'elles vont faire autrement que leurs voisins maliens ou burkinabés en resserrant l'espace des libertés. Pour l'instant, on n'est pas au même niveau de contrôle, de serrage des vis qu'on peut le voir au Mali et surtout au Burkina Faso.
Est-ce que les Américains ont joué un rôle dans la décision des pays de la CDAO de renoncer à toute intervention militaire ?
Bon, les États-Unis n'ont soutenu au fond que du bout des lèvres l'action de la CDAO. Il était clair qu'ils ne croyaient pas non plus à la possibilité d'une intervention passée les premiers jours, en tout cas pas d'une intervention réussie. Et donc ils se sont engagés dans une approche accommodante à l'égard du CNSP, des nouvelles autorités, essayant voilà, de préserver des relations et puis de préserver aussi leur base. Au départ, ce n'était pas nécessaire vraiment un pari idiot, mais évident qu'il n'a pas fonctionné. Donc les États-Unis sont quand même rentrés en tension avec le CNSP, d'abord autour de son rapprochement avec des acteurs comme l'Iran et la Russie, et puis aussi du fait du refus du CNSP de fixer un calendrier de sortie de transition sous pression. Et donc cela a fini à conduire à l'impasse actuelle. Aussi, enfin également, je pense que voilà, il semblerait que le CNSP aussi restait très méfiant à l'encontre de certains de ses voisins de la sous-région et aussi de la France. Il soupçonne ses acteurs de vouloir soutenir des actions de déstabilisation. Et donc face à cette menace, réelle ou pas, le CNSP a plus confiance dans l'allié russe que dans l'allié américain. Voilà, pour autant, on ne peut pas dire que les États-Unis ont été chassés du pays. Ils maintiennent une présence, non militaire, mais ils maintiennent une présence à travers des programmes de développement et d'aide humanitaire. Ils ont toujours leur ambassadeur présent à Niamey. Ils réussissent à éviter une sorte de politique des blocs qui voudrait qu'on retourne à une forme de politique de la guerre froide où un pays est soit votre allié, soit votre adversaire. Et je trouve qu'en faisant cela, même si voilà, à court terme, les États-Unis n'ont pas réussi dans leur stratégie d'accommodement, ils préservent mieux l'avenir que d'autres partenaires.
Mais le coup de téléphone entre Vladimir Poutine et le général Tiani à la fin du mois de mars et l'arrivée des premiers instructeurs militaires russes à la mi-avril à Niamey, est-ce que ce n'est tout de même pas la preuve qu'il y a un tournant anti-occidental au Niger ?
En tout cas, il y a un tournant pro-russe évident. Ils ont acquis une influence énorme par rapport à ce qui était leur influence il y a encore 4 ou 5 ans. Ce sont les grands vainqueurs en termes d'influence. Maintenant, voilà, l'assistance que le Kremlin propose est essentiellement limitée au domaine sécuritaire et elle présente des limites évidentes. Alors, certes, les États ne sont pas brutalement effondrés au départ de Barkhane ou de la MINUSMA, mais nulle part la situation ne s'est véritablement améliorée grâce à la présence russe. Au contraire, elle continue de se dégrader. Et au fond, les Russes, pas plus que les Français, n'ont su trouver la formule magique face aux insurrections djihadistes. Sans doute d'ailleurs qu'on ne parviendra pas à bout de ces insurrections avec les seuls moyens militaires. Et de ce point de vue, les gouvernements militaires au Sahel ont du chemin à faire. Et la nouvelle alliance qu'ils ont nouée avec la Russie ne leur permet pas de faire des progrès véritablement substantiels.
Est-ce que la junte nigérienne du CNSP est unanime dans ce tournant anti-occidental et pro-russe ?
Bon, c'est difficile à dire. On a toujours présenté ce CNSP comme étant tiraillé entre plusieurs tendances. Mais à l'évidence, c'est la ligne pro-russe qui l'emporte. C'est aussi la ligne des ruptures avec la sous-région, avec la France et aujourd'hui avec l'aide militaire américaine qui l'emporte. Il faut bien voir cependant que c'est dans le domaine de la sécurité que l'on parle ici. C'est un domaine de souveraineté et les putschistes ont mis l'emphase en fait sur ce discours souverainiste. Ailleurs, dans les autres domaines de coopération, que ce soit notamment le développement, aussi les relations financières, les portes sont loin d'être fermées, hein, comme le montre d'ailleurs le déplacement du Premier ministre à Washington pour les rencontres avec les institutions financières internationales.
Voilà 9 mois que le président Mohamed Bazoum refuse de signer sa destitution et paye ce courage de la prison dans laquelle il est enfermé avec son épouse. Est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui aucun espoir de libération pour lui ?
On espère que si. Son bilan était de loin le plus intéressant dans la région sur les 15 dernières années. Il refuse de démissionner, sans doute parce qu'il est convaincu que l'avenir de son pays ne sera pas mieux garanti si des militaires assument un tel niveau de pouvoir. C'est un reflet de son parcours de démocrate convaincu, mais c'est aussi cela qu'il maintient en détention jusqu'à aujourd'hui.
Et quel intérêt pour les militaires de vouloir le juger comme ils en montrent l'intention ?
C'est difficile à dire aujourd'hui. Peut-être aussi, il s'agit aussi de trouver un nouveau bouc émissaire. Ce qu'on peut surtout noter, c'est que pour l'instant, voilà, le CNSP n'a pas véritablement mis en place un programme de transition et qu'en dehors des choix dans le domaine sécuritaire, il n'a pas véritablement mis en place des signes de rupture positive pour le pays.
Est-ce qu'une solution négociée est encore possible pour la libération du président Bazoum ?
Oui, on l'espère.
Et de quelle façon ? Peut-être avec une médiation internationale ?
Oui, peut-être. Beaucoup l'ont tenté ces derniers mois. On a vu plusieurs puissances, plusieurs pays de la sous-région essayer de jouer les médiateurs jusque-là sans succès. Voilà, on espère qu'ils vont continuer, qu'ils obtiendront une libération du président Bazoum qui ne mérite pas, à l'évidence, le sort qu'il sient aujourd'hui.
Jean-Hervé Jézéquel, merci.